Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 6 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports, et on reviendra sur le bilan de la victoire du Labour aux élections fédérales de samedi dernier. Et au sommaire de ce bulletin de ce mardi, le Premier ministre a déclaré qu'il prévoyait d'attendre quelques jours pour remanier son ministère. En attendant les résultats de certains sièges où le décompte des votes est encore trop serré, le Parti libéral cherche un remplaçant à son chef sortant, Peter Dutton, qui a perdu sa propre circonscription de Dixon. Le porte-parole du parti pour le Trésor, Angus Taylor, la chef adjointe Susan Lee et la porte-parole de l'immigration, Dan Tehan, sont considérés comme les principaux candidats. Le chef des Verts, Adam Bent, affirme que son parti ne regrette pas sa décision de faire campagne sur le climat ni sur Gaza. Le dépouillement des votes est toujours en cours dans sa circonscription de Melbourne. Et après avoir remporté haut la main les élections fédérales, le Premier ministre a déclaré qu'il va se concentrer sur la dette étudiante, l'environnement et le logement pour entamer son second mandat. Le Parti travailliste a promis de réduire de 20% la dette étudiante, soit environ 16 milliards de dollars, afin de soutenir les jeunes Australiens confrontés à la crise du coût de la vie. Anthony Albanese a déclaré qu'il va œuvrer à la création d'une agence fédérale de protection de l'environnement et a réaffirmé son engagement à tenir sa promesse de construire 1,2 million de nouveaux logement d'ici 2029.
I note that both the Coalition and the Greens housing spokespeople won't be in the Parliament. I think part of the reason why they're not in the Parliament is that they held up public housing. They held up emergency housing for women and children escaping violence. They held up our build to rent scheme. They held up our help to buy scheme.
Le Premier ministre a aussi déclaré qu'il prévoyait d'attendre quelques jours pour remanier son ministère en attendant les résultats de certains sièges où le décompte des votes est encore trop serré.
We're going to try and slow the pace a little bit over coming days. I'll consult with colleagues about forming a front bench down the track. There are a number of results that are unclear in electorates, but it's very clear that we will have a substantial majority in the House of Representatives.
Le trésorier Jim Chalmers affirme que le gouvernement travailliste placera les travailleurs australiens au cœur des priorités politiques. Parmi les nouveaux sièges remportés par le Parti travailliste, on compte celui de Bonner, Ford et Leichhardt dans le Queensland. Pour Jim Chalmers, il s'agit du meilleur résultat du Parti travailliste dans le Queensland depuis la victoire écrasante de Kevin Rudd en 2007.
Certainly, I think there's a lot of gratitude for the working people of this country, what they do every day, but the way that they showed up on election day to re-elect a good Labor government. And our responsibilities to the working people of Australia, the working people of Queensland are really clear. You know, decent pay and conditions, lower income taxes, helping people with the cost of living, making sure that in difficult times people can get by, work hard and provide for their loved ones.
Le Parti libéral cherche un remplaçant à son chef sortant, Peter Dutton, qui a perdu sa circonscription de Dixon. Le porte-parole du parti pour le Trésor, Angus Taylor, la chef adjointe Susan Lee et la porte-parole de l'immigration, Dan Tehan, sont considérés comme les principaux candidats. Le sénateur libéral, Andrew Bragg, a déclaré sur Sky News que le parti avait besoin d'un chef capable de reconquérir le centre.
We need to put our best people forward if we are to reclaim the centre. But as for the leadership in those issues, that's a matter for colleagues right now.
Malgré des millions dépensés, des SMS inondés et l'utilisation du mot Trump pour son image de marque, le parti de Clive Palmer, Trumpet of Patriots, n'a pas réussi à remporter un seul siège aux élections. Dimanche, Trumpet of Patriots avait recueilli près de 225 000 des votes primaires de la Chambre des représentants. En comparaison, des partis comme Legalize Cannabis Australia et Family First ont obtenu 1,1% des voix aux primaires, avec peu ou pas de campagne électorale. Le Daily Telegraph de Sydney a rapporté la semaine dernière dans une interview avec Clive Palmer que ce dernier avait dépensé 60 millions de dollars pour sa campagne électorale. Interrogé sur l'efficacité de ses SMS de campagne, cet électeur a déclaré qu'ils étaient tout simplement agaçants.
Hey, stop texting my wife. What are you doing? You're not going to make anyone want to vote for you by hassling them late night, early mornings. He's like an ex that just doesn't get the picture, who just keeps just dropping you text after text.
Alors que le dépouillement des votes pour les élections se poursuit, les chiffres montrent que la coalition pourrait chuter à son plus faible pourcentage de sièges au Parlement depuis la formation du Parti libéral dans les années 40. Le libéral Keith Wallahan, qui risque de perdre son siège de Menzies dans l'État de Victoria, estime que le paysage politique à l'étranger a probablement joué un rôle dans le résultat pour la coalition.
I think, again, the analysis will be done on the campaign, but I think it's quite clear when you look at the Canadian election and then here, what has happened in the United States has given people, I guess, a sense of unease about where their politics are domestically. And I think that has been a contributing factor in this election.
Lors des dernières élections en 2022, la coalition a remporté 58 sièges. Elle devrait maintenant en perdre jusqu'à 19 sièges. La sénatrice libérale Holly Hughes a déclaré dans une interview sur SBS que le programme politique de la coalition avait des défauts qui devaient être corrigés.
I think what at the crux of the issue was the fact that there was just no economic narrative. There was no policy, there was nothing to sell that our candidates or our MPs could really go out and talk to their constituents about. The Liberal Party's always stood for small government, it's always stood for less regulation and supportive small business. And there were just none of those issues that were being talked about, there was no economic narrative. It just feels like that policy work hadn't been done. And it made it incredibly difficult for everyone that was out there trying to sell a message.
La milliardaire Gina Reinhart affirme que le Parti libéral devrait s'orienter davantage vers des politiques à la Donald Trump après la défaite. Dans une longue déclaration au Daily Mail, Mme Reinhart affirme que l'Australie devrait aspirer à s'inspirer de pays comme l'Italie et la Hongrie, gouvernés par des coalitions populistes de droite. S'adressant sur SBS News, la sénatrice libérale Holly Hughes a déclaré que l'adoption de politiques plus extrêmes n'avait pas été bénéfique pour la campagne.
Yeah, look, we're a very different country to America. If for no other reason, we have compulsory voting. And so when you start talking about some of these policies at the extreme edges of either ideology, you know, for them in the States, a lot of the time it's about motivating the base and getting out the vote. That's not how Australians operate. That's not how our political system works. But again, when you don't have an economic narrative that you can go to, people are going to fill the void with other issues, and I do think that was problematic.
Le Parti travailliste a perdu beaucoup de terrain dans deux circonscriptions régionales. Dans la circonscription de Solomon, dans le territoire du Nord, le député travailliste Luke Gosling a remporté une courte victoire avec un revirement de 7% en faveur du Country Liberal Party. Par ailleurs, la circonscription de Bendigo dans l'état de Victoria reste très serrée entre le Parti travailliste et le Parti national. La chef des Nationals au Sénat, Bridget McKenzie, a déclaré sur ABC Radio National que le parti avait réalisé des avancées significatives.
Labor has held the seat for 27 years. We've achieved at least a 10% swing to the National Party against Labor in an election where there wasn't a lot of bright news for the coalition. So it's good news about our policies resonating with that community.
Le chef des Verts, Adam Bent, affirme que son parti ne regrette pas sa décision de faire campagne sur le climat ni sur Gaza. Le parti a concédé avoir perdu 2 sièges à la Chambre basse fédérale du Queensland, celui de Brisbane occupé par Stephen Bates et celui de Griffith occupé par Max Chandler Mather. Elizabeth Watson-Brown pourrait se maintenir dans la circonscription voisine de Ryan. Le dépouillement des votes est toujours en cours dans la circonscription de Adam Bent à Melbourne. Adam Bent affirme qu'il souligne les points positifs du résultat des élections, notamment la performance du parti au Sénat.
The Greens have achieved a record Senate vote. We're nudging 14%, somewhere the county is at the moment, and we'll see where it gets to at the end. And I think that's a reflection of the true Greens level of support in Australia. And it's a pretty remarkable achievement that means that all of our senators have been re-elected, but also in part because of that strong vote, the Greens are now in sole balance of power in the next parliament.
Plusieurs députés indépendants qui avaient remporté des sièges libéraux traditionnellement sûrs lors des dernières élections ont conservé leur siège. Zali Steggall de Warringah en fait partie. Elle sera rejointe par Allegra Spender de Wentworth et Kate Cheney de Curtin. Madame Steggall a déclaré sur Sky News qu'elle s'était rendue dans les bureaux de vote le jour du scrutin et que le sentiment des électeurs était clair.
I think Australians have rejected adversarial politics and sort of divisive politics and have looked for policies and solutions. I think where it was about identity politics, I think there was a pretty profound rejection. I know from my experience on the ground I went to 27 booths yesterday during the day, and overwhelmingly the message I got from voters was they really rejected the fear and smear campaigns. Overwhelmingly the message I got, truth in political advertising is what people want to see.
La candidate travailliste qui a détrôné le chef de la coalition, Peter Dutton, à Dixon, à Brisbane, a remercié les électeurs pour leur soutien. Elle a déclaré que cette victoire n'aurait pas été possible sans le dévouement des bénévoles et des membres de son équipe. Le président américain Donald Trump a commenté l'élection australienne, affirmant ignorer qui était Peter Dutton, l'adversaire d'Anthony Albanese. Il a refusé de répondre aux questions sur l'influence de l'effet Trump dans la défaite des libéraux. Le député fédéral Barnaby Joyce a été salué pour son courage après avoir révélé qu'il allait subir une opération pour un cancer de la prostate. L'ancien vice-premier ministre qui a remporté haut la main son siège régional de Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-Galles du Sud lors des élections a révélé son diagnostic dimanche.
The big thing is, look, you got to take something positive out of it. If you're a guy or you know a guy, once you get in your 40s, 50s, get a PSA test. Just clear your own mind that everything's fine. If you get stuff early, like melanoma, like everything else, if you get it early, you're going to overwhelmingly be okay. But if you're too busy to get checked, then you're putting your family in real strife.
Ailleurs dans le monde, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan d'intensification de sa campagne militaire à Gaza, incluant la conquête totale du territoire et une présence indéfinie. Ce plan prévoit également le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud de Gaza et sera mis en œuvre progressivement. Et puis selon des blogueurs de guerre russes, les forces ukrainiennes auraient lancé une offensive transfrontalière dans la région de Koursk, à l'ouest de la Russie, près de la ville de Tiokino. Si les autorités ukrainiennes n'ont confirmé aucune incursion, les procureurs affirment que les attaques russes ont fait au moins 3 morts et blessé d'autres personnes dans la région voisine de Soumis. On passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 25. Hobart, 20. Canberra, 23. Sydney, 26. Brisbane, 25. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 27 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et 15 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et je passe l'antenne maintenant à notre collègue Christophe Mallet pour le journal des sports.
Journal des sports et on débute avec du football. Les résultats de la 32e journée de la Ligue 1 de football en France. Nice qui bat Reims sur le score de 1-0. Le PSG qui bute encore une nouvelle fois. Vraiment une fin de saison compliquée. Ils sont déjà champions. C'est vrai qu'ils ont dû certainement lever le pied. Mais le PSG qui perd face à Strasbourg 2-1. Toulouse bat Rennes sur le score de 2-1. Saint-Etienne qui perd face à Monaco chez eux. Donc au stade Geoffroy Guichard sur le score de 3-1. Angers qui va battre Nantes en Bretagne sur le score de 1-0. Brest, les autres Bretons battent Montpellier sur le score de 1-0. Le Havre bat Auxerre chez eux à la Baie des Champs sur le score de 2-1. Lyon qui perd face à Lens, donc Lens qui remporte ce match 2-1. Et match nul 1 partout entre Lille et Marseille. Un match nul qui satisfait tout le monde, comme nous l'explique Nabil Bentaleb, le joueur de Lille.
On a eu ce qu'on méritait. On a bien travaillé en première mi-temps, on a su les contenir. Et en deuxième mi-temps, on ne s'est pas créé énormément d'occasions, mais on a su capitaliser sur leurs erreurs. Et je ne pense pas qu'eux non plus ont eu énormément d'occasions, mais je pense qu'un nul, c'est mérité. En tout cas, on sait que c'est une équipe compétitive, c'est une équipe difficile à aller chercher. Et on l'a très bien vu ce soir, ils sont solides, on a réussi à avoir un nul. Je pense qu'eux aussi sont satisfaits de ce résultat, vu comment ils jouent à la fin, à essayer de perdre du temps. Donc je pense que c'est un bon match pour les deux équipes.
Nabil Bentaleb, le joueur lillois. Donc au classement, vous le savez, le Paris Saint-Germain est déjà champion donc de ce championnat de France. Mais la bataille se suit pour les accessites. Marseille est deuxième avec 59 points. Monaco est troisième avec 58 points. Nice est quatrième avec 57 points. Égalité avec Lille qui est donc cinquième avec 57 points. Également, Strasbourg se relance d'ailleurs dans la course avec 57 points également. Et donc sixième de ce classement en bas donc du tableau. 16e Le Havre avec 31 points. Saint-Etienne est 17e avec 27 points et déjà condamné. Lanterne rouge de ce championnat, 18e Montpellier avec 16 points également. On continue sur le football et Paris, la ville de Paris, la capitale, sera doublement magique à partir de l'année prochaine avec l'accession en Ligue 1 du Paris FC. Antoine Grenier.
Paris Football Club a validé sa montée en Ligue 1 dans l'élite en obtenant un nul 1 partout à Martigues, conjugué au spectaculaire nul du FC Metz, 3 partout contre Rodez. Ce résultat valide la montée du Paris FC. Deux clubs parisiens en première division, du jamais vu depuis la saison 1989-1990, Babacardia.
Le football parisien ne va plus regarder ses homologues du rugby avec jalousie. Paris aura son derby du ballon la saison prochaine, entre le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, et le Paris Football Club, un promu pas si banal, car les deux clubs ont une histoire commune. Au début des années 70, ils avaient vécu une scission, le PFC ne s'en est jamais remise à cause de problèmes financiers. Une descente aux enfers jusqu'en division d'honneur, l'équivalent du cinquième échelon français. Cette traversée du désert a pris fin au milieu des années 2010 avec le retour au professionnalisme du club parisien. Première étape sur le chemin de la Ligue 1. Ces dernières saisons, les ambitions de monter avaient été freinées par trois fois lors de barrages de fin de saison. Mais cette saison aura été la bonne avec une montée directe. Le projet a même pris une toute autre ampleur avec l'arrivée de la famille Arnaud au capital du club à l'automne dernier. Désormais, le Paris FC, souvent moqué pour son itinérance au niveau des stades, va prendre place au stade Jean-Bouin face au Parc des Princes, au moins pour les 4 prochaines saisons. Une nouvelle rivalité est peut-être née.
Et c'était donc Babacar Diarra avec ce reportage. Paris qui aura donc 2 clubs en L1. Ça faisait vraiment un long moment qu'on n'avait pas vu ça pour la capitale parisienne. On reste sur le football, direction l'Espagne. Et le Real Madrid qui s'est fait peur. Le Real Madrid qui remporte son match face au Celta Vigo sur le score de 3-2. On écoute Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Madrilènes.
Nous avons joué la semaine dernière un match de très haute intensité. Nous étions d'ailleurs proches de la victoire. Je ne pense pas que l'équipe doive inventer une nouvelle façon de jouer en cette fin de saison. Nous devons simplement être solidaires sur le terrain et c'est ce que nous ferons. Nous jouerons avec beaucoup de confiance, comme nous l'avons fait face à Vigo. Nous pouvons encore nourrir de belles ambitions dans ce championnat, c'est bien.
Carlo Ancelotti, le Barça est toujours en tête de ce championnat espagnol avec 79 points, talonné par le Real Madrid, deuxième avec 75 points. On reste en Espagne, mais on parle de tennis. La victoire de Rod, donc Casper Rod qui remporte donc le Masters 1000 de Madrid. Une première victoire à ce niveau-là. Donc pour Casper Rod, le circuit cette semaine est en Italie avec le tournoi de Rome. On reste en Italie également. Le Giro d'Italia débute en cette fin de semaine, ce vendredi. Je vous rappelle juste, vous pourrez suivre chaque coup de pédale de ce Giro sur l'antenne de SBS Télévision. Et on finit avec de la Formule 1, la victoire d'Oscar Piastri, l'Australien leader du championnat du monde de Formule 1. Très belle victoire dans le Grand Prix de Miami, on l'écoute.
I had to be patient at the start, you know, there was a lot going on, a lot of big maneuvers being put on out on track and I just had to bide my time and pick my moment properly and eventually that came and then yeah, I knew once I got ahead of Max that I had to try and build a gap because the pace was much stronger than when I was behind him and you know I knew it was going to be only a matter of time before Lando got through as well.
Voilà donc Oscar Piastri, l'Australien, le jeune Australien qui est leader du championnat du monde de Formule 1. Et à noter également, eh bien, un autre Australien dans la tourmente cette fois-ci, Jack Doohan, le pilote de l'écurie française Alpine, serait sur le départ. Les rumeurs vont bon train parlant de Calo Pinto, le remplaçant en tant que pilote officiel donc de l'écurie Alpine. On en saura plus dans les prochains jours. Si c'est le cas avéré, l'Australien n'aura plus de baquet, plus de volant en Formule 1 pour cette année, tout du moins. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
h 25 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. C'est mardi et on passe à la semaine politique et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Patricia Meunier.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Semaine politique en ce mardi, on parle bien entendu des législatives en Australie. Les travaillistes, vous le savez, ont remporté les élections fédérales du 3 mai. Anthony Albanese a ainsi été donc reconduit à son poste de Premier ministre. Une victoire dont l'ampleur a surpris tout le pays. Parmi les perdants, on retrouve la coalition donc du leader Peter Dutton qui quitte la politique. Il y a également les Verts qui peuvent être considérés comme des perdants. Parlons maintenant des Teals qui ont confirmé leur présence dans l'échiquier politique. Patricia Meunier.
L'Australie a choisi de garder les travaillistes au pouvoir.
pouvoir en remportant les élections du 3 mai 2025. Le Premier ministre Anthony Albanese a réussi un rare exploit, celui de renforcer sa majorité pour son deuxième mandat. Il revient de loin car à la fin du mois de février, les sondages lui étaient défavorables. Finalement, il a obtenu une victoire dont l'ampleur a surpris tout le monde.
Serving as your Prime Minister is the greatest honour of my life. And it is with a deep sense of humility and a profound sense of responsibility that the first thing that I do tonight is to say thank you to the people of Australia for the chance to continue to serve the best nation on earth.
Anthony Albanese devient ainsi le premier Premier ministre à remporter deux élections consécutives en plus de 20 ans. Le chef de la coalition, Peter Dutton, du centre-droit, a donc été battu. En cause, une campagne qui n'a pas atteint sa cible. De plus, la travailliste Ali France l'a battu dans sa circonscription de Dixon, dans le Queensland. Il va donc quitter la politique. On l'écoute.
We didn't do well enough during this campaign. That much is obvious tonight, and I accept full responsibility for that. Earlier on, I called the Prime Minister to congratulate him on his success tonight. It's an historic occasion for the Labour Party and we recognise that.
Selon les projections des médias à ce stade, le Parti travailliste est en bonne voie pour remporter 85 sièges. La coalition environ 40 et les Verts 1 ou 2. D'autres petits partis, les indépendants, sont en tête avec 9 sièges. Les candidats indépendants, les Tils, ont donc encore gagné du terrain. Plusieurs d'entre eux se présentant à nouveau à la course ont non seulement conservé leur siège, mais ont même accru leur avance. Les candidats indépendants ont prouvé qu'ils n'étaient pas que de passage au gouvernement. Et comme certains sièges sont encore en jeu, davantage d'électeurs pourraient également se tourner vers eux. En Nouvelle-Galles du Sud, Zali Stegall, la députée indépendante sortante, a remporté un troisième mandat dans la circonscription de Warringah à Sydney. Selon elle, les électeurs souhaitent des solutions concrètes plutôt que des querelles politiques. On l'écoute au micro de nos confrères de Sky News.
I think Australians have rejected adversarial politics and sort of divisive politics and have looked for policies and solutions. I think where it was about identity politics, I think there was a pretty profound rejection. I know from my experience on the ground I went to 27 booths during the day, and overwhelmingly the message I got from voters was they really rejected the fear and smear campaigns. Overwhelmingly the message I got, truth in political advertising is what people want to see.
En revanche, on observe une baisse significative du soutien aux Verts, qui se sont réveillés après les élections avec un sentiment amer. Les Verts ont perdu 2 sièges à la Chambre basse du Queensland et plusieurs autres élections sont toujours en jeu. Adam Bond, le chef des Verts, n'est pas encore confirmé à Melbourne. Sean Ratcliffe, directeur chez Accent Research, revient sur le résultat des Verts.
So it looks like the Greens are holding on to the seat of Ryan, which is an electorate in the western suburbs of Brisbane, which they won at the last election. However, the other seats they currently hold are looking less certain. So Griffith almost certainly looks like it's been lost to Labor. Brisbane is still in the mix, but it does look like they could lose that to Labor as well. And the seat of Greens leader Adam Bandt in Melbourne also is on a knife edge at the moment, at the most recent count we've seen. But in return, it looks like they could potentially win the seat of Wills, which is in the inner northern suburbs of Melbourne, and also the seat of Richmond, which is on the north coast of New South Wales.
Les Verts ont perdu des sièges suite à l'effondrement de la coalition dans le Queensland qui a permis au Parti travailliste de progresser. Ce fut une surprise pour le parti d'Alan Bandt, comme pour de nombreux autres politiciens.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
13h34 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Je passe maintenant l'antenne à notre collègue Marianne Murat pour parler de Smelly Cheese avec Valérie Enbest qui organise des masterclass à Paris prochainement, le 21 mai, avec Laurent Dubois. C'est une collaboration 100% franco-australienne.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Nous sommes en ligne avec Valérie Nbest. Valérie, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous êtes la fondatrice de Smelly Cheese Company. C'est un magasin de fromage, mais pas comme les autres, on va en parler. Et on y trouve, paraît-il, les meilleurs fromages du monde, Valérie. Alors on imagine, vous avez beaucoup de fromages français.
C'est une aventure que j'ai démarrée il y a une vingtaine d'années. Et en fait, je suis arrivée ici en tombant complètement amoureuse de l'Australie, sauf qu'il me manquait un petit peu de fromage. Et je me suis dit que si je voulais vivre ici pour toujours, happily forever after, comme on dit, j'avais besoin de me procurer un tout petit peu des fromages qui me manquaient. Cette aventure m'a amené aujourd'hui à couvrir l'ensemble du monde. Je me balade partout, je vais chercher des fromages dans le monde entier, je rencontre des gens extraordinaires. Et du coup, on a une sélection unique, relativement exceptionnelle, énorme. Je fais venir plus de 100 tonnes par an de fromage. Donc, c'est une belle aventure. Vraiment, elle est venue relativement organiquement, mais aujourd'hui, je me régale des meilleurs fromages du monde, comme vous dites.
Bon, maintenant qu'on vient de parler de fromages du monde entier, des meilleurs fromages et qu'on a l'eau à la bouche, on a envie d'en manger. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous êtes au marché d'Adélaïde depuis 25 ans, c'est ça ?
Effectivement, nous sommes dans ce marché iconique d'Adélaïde qui est extraordinaire, donc un marché couvert qui a des qualités exceptionnelles. Et la qualité numéro une, c'est que visuellement et olfactivement parlant, c'est exceptionnel. Vous arrivez dans un univers de bons produits. Et puis, si vous suivez votre nez, eh bien, vous allez me trouver, puisque je suis à peu près au milieu du marché.
En plein milieu, oui.
Et donc, on est à côté d'une boulangerie. Bien sûr, c'est un petit peu, ça va de pair. On a le pain. Et puis, depuis 3-4 ans, je me suis aussi lancée dans le vin, le champagne. Et donc, j'ai à peu près une bouteille de champagne avec chaque fromage. Enfin, en tout cas, chaque type de fromage, on peut vous diriger vers le meilleur mariage avec vin ou spiritueux d'ailleurs, ou champagne. Donc en fait, c'est un one-stop shop, un peu comme les fromageries qu'on trouve en France. À Paris, il y a des magnifiques fromageries où vous avez tout. Si vous voulez faire un bon plateau de fromage, vous avez tout ce qu'il faut sur un stop.
Vous faites aussi des masterclass, Valérie, et notamment il y en a une à Paris en mai avec Laurent Dubois. Ça se passe au Printemps du Goût. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, je suis tellement heureuse de cette expédition. C'est la deuxième année consécutive, puisque l'année dernière, au mois de septembre, on a fait le premier événement au Printemps du Goût avec Laurent Dubois, qui est un meilleur ouvrier de France. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance, question fromage, c'est bien lui. Il a 5 boutiques à Paris et il a été appelé par le Printemps où il vend au 8e étage de son fromage et a aussi un restaurant. Et donc, cette année, le 21 mai exactement, de 5h à 7h, nous allons recevoir 25 lucky, très chanceux invités, puisqu'en fait le local est relativement petit, mais on va être sur la terrasse qui donne sur la Tour Eiffel et tous les toits parisiens, l'Opéra à gauche, la Madeleine en face. Bref, c'est vraiment un moment où on se dit « pince-moi, je rêve ».
Et c'est quoi ? C'est une masterclass qui parle vins et des fromages franco-australiens ?
Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que j'arrive avec 3 fromages australiens. Cette année, je viens avec un fromage de chèvre fait par Chris Lloyd, Woodside, qui est couvert de lemon myrtle, de la myrte citronnée, je pense qu'on dit en français. Une roue de Banksia réserve, donc c'est comme un gruyère fait à Castlemaine dans le Victoria par Long Paddock. Un fromage exceptionnel, je pense, qui va vraiment surprendre les Parisiens. Et puis, une pâte lavée de Milawa, donc encore dans le Victoria, qui s'appelle King River Gold, une des plus vieilles pâtes lavées australiennes. Et vraiment une pâte lavée aussi qui a du caractère. Et donc, Laurent se charge de faire le pairing avec le mariage avec du vin français. Et lui prépare trois fromages français que je vais donc marier avec des vins australiens puisque je travaille avec un représentant de vin du monde, Vino Delis, qui va donc m'aider à marier les fromages français de Laurent. Donc, une vraie collaboration franco-australienne. Et je pense que pour les Français, c'est toujours une grosse surprise parce que si vous interviewez n'importe qui en France, si vous lui demandez combien de fromages australiens ils connaissent, je pense que je connais la réponse.
Zéro.
Exactement.
Bon, tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont évidemment envie d'aller à cet événement, mais voilà, c'est à 17 000 km d'ici. Pour une soirée, ça fait un peu loin. Est-ce que vous avez d'autres masterclass ici en Australie?
Alors oui, puisque effectivement chaque mois, nous créons avec l'équipe d'Adélaïde des masterclass qu'on appelle Cheese After Dark, puisque ces classes ont lieu après la fermeture bien sûr du marché, donc de 6h30 à 8h30. Nous installons des longues tables et il y a une cinquantaine de personnes. J'ai choisi 5 fromages uniques et généralement donc j'invite des viticulteurs, des vignerons. Ils viennent présenter leurs produits et voilà, donc on démarre avec généralement un triple crème, un chèvre, après un comté ou une pâte semi-dure, puis une pâte lavée et on finit avec un bleu. Et donc en fait, on raconte des histoires. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être davantage une raconteuse d'histoires qu'une fromagère. Quoi. C'est le fromage pour moi est une porte d'entrée à des histoires fabuleuses qui parlent non seulement d'un pays, d'une culture, de tradition, de géographie, d'histoire. C'est énorme, énorme. Et là, je me pince parce que c'est tellement riche. J'ai toujours l'impression d'apprendre des milliers de choses, de rencontrer des gens nouveaux avec d'autres histoires. Donc, je pense que les gens, quand ils viennent, ils repartent avec des étoiles dans les yeux et l'impression d'avoir appris plein de choses. Et une fois qu'on a un tout petit peu le goût de comprendre ce qu'on mange ou ce qu'on boit, eh bien, l'aventure est encore plus riche et puis on se fait encore plus plaisir. Et c'est un peu le but.
Et vous sentez une demande croissante, le fromage, surtout ici en Australie, on va pas se mentir, c'est extrêmement cher. En ce moment, il y a la crise du coût de la vie, les gens dépensent peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous sentez justement donc une demande croissante pour accéder à ces histoires, comme vous dites, ou au contraire, est-ce que vous voyez quand même un certain recul ces dernières années?
Ça, c'est très intéressant, une très bonne question, parce que c'est vrai que le Covid a fait du mal à tout le monde. Là, effectivement, on sent énormément cette période de récession où les gens font très attention. Manger moins mais mieux, c'est peut-être la solution. Ce que je vends aujourd'hui, c'est ce que je vendais pas il y a 10 ans, par exemple, c'est des demi-camemberts, ça ne m'arrivait jamais, des demi-époisses, des quantités un peu moindres, mais je pense que les gens continuent et viennent se faire plaisir avec un petit peu moins. S'ils ont un budget de $25, eh bien, soit. Les gens qui viennent à Smelly ont un petit peu cette attitude de se dire, OK, bon, bah, voilà, je vais peut-être aller.
C'est du luxe, mais
c'est un petit luxe, effectivement, et je vais me faire plaisir. Et je pense que, ouais, c'est là notre richesse.
Merci beaucoup, Valérie Henvest.
Avec plaisir.
Votre communauté. Vos conversations. SBS French.
13h47 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On passe à la série Australia Explained de SBS et on va parler de la communauté autochtone et Closing the Gap. Vous êtes en compagnie de notre collègue Bertrand Tungandamé.
L'Australie est un des pays les plus avancés au monde en matière d'espérance de vie. En moyenne, les Australiens vivent jusqu'à environ 83 ans, mais pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, l'espérance de vie est inférieure d'environ 8 ans par rapport au reste de la population. Closing the Gap est un accord national conçu pour changer cela. Il vise à améliorer la santé et le bien-être des Australiens des Premières Nations afin qu'ils puissent bénéficier de la même qualité de vie et des mêmes opportunités que les autres Australiens. Alors, comment Closing the Gap a-t-il commencé? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qui a changé en 2020 et où en sommes-nous aujourd'hui? Tout a commencé en 2005 lorsque le professeur Tom Calma, un aîné aborigène, a présenté un rapport historique sur la justice sociale. Il y a appelé à l'égalité en matière de santé pour les aborigènes et les insulaires du détroit Torres en une génération, soit 25 ans. Son rapport a suscité un large soutien public et en 2007, des Olympiens célèbres comme Cathy Freeman et Ian Thorpe ont rejoint une nouvelle campagne.
I'm not here to talk about the injustices. This is about what we are able to do today together to help each other, help one another. And I think Thorpe and I are here as an example of what you can do when you bring out the best in yourself and you stand proud and you stand strong.
Puis en 2008, le Premier ministre Kevin Rudd a officialisé la stratégie Closing the Gap. La même année, il a également prononcé les excuses nationales aux générations volées. La stratégie initiale Closing the Gap portait sur 7 domaines clés tels que l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'éducation et l'emploi. L'objectif était d'obtenir des améliorations mesurables en 10 ans. Et chaque année après le lancement, le Premier ministre en place présente un rapport sur l'état d'avancement.
For 12 years, I have sat in this chamber and listened to Closing the Gap speeches. It's a tale of hope, frustration and disappointment. A tale of good intentions, indeed good faith, but the results are not good enough. This is sadly still true. We perpetuated an ingrained way of thinking, and that is the change we are now making, together with Indigenous Australians through this process.
C'était l'ancien Premier ministre Scott Morrison en 2019, plus de 10 ans après le lancement de la stratégie. À ce moment-là, il était clair que les choses ne fonctionnaient pas. Seuls deux des objectifs initiaux étaient en bonne voie et l'écart d'espérance de vie recommençait à se creuser. Ce moment a marqué un tournant. La stratégie a été réformée et renommée Accord national sur Closing the Gap et l'accent a été déplacé, passant des solutions dirigées par le gouvernement à des véritables partenariats avec les communautés autochtones. Un groupe appelé la Coalition of Peaks, composé de plus de 80 organisations autochtones contrôlées par la communauté, a été formé pour co-concevoir la nouvelle approche. L'idée est simple, les politiques ne doivent pas être élaborées pour les communautés, mais avec elles. Le nouvel accord a fixé 19 objectifs spécifiques à atteindre d'ici 2031. Parmi ceux-ci, les enfants naissent en bonne santé et forts. Les élèves atteignent leur plein potentiel d'apprentissage, moins de jeunes gens dans le système de justice pénale. C'est une approche plus large et plus holistique qui ne se concentre pas seulement sur la santé, mais aussi sur le logement, la justice, la culture et la participation économique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Presque une génération s'est écoulée depuis l'appel au changement de Tom Calma. À l'époque, l'écart d'espérance de vie entre les Australiens autochtones et non autochtones était de 11 ans. Aujourd'hui, il est d'environ 8 ans. Mais de façon inquiétante, la tendance repart dans la mauvaise direction. Selon le dernier rapport de la Productivity Commission, des progrès ont été réalisés. 11 des 19 objectifs ont vu des améliorations, mais seuls 5 sont actuellement sur la bonne voie. Certains signes sont encourageants. Plus de bébés naissent avec un poids sain et plus de jeunes terminent la 12e année scolaire ou un diplôme équivalent. Mais d'autres domaines, comme les taux de suicide et d'incarcération des adultes, se détériorent. Comme le dit Pat Turner, femme Gurindji Arante et coordinatrice de la Coalition des PICS.
We need to stick at it. Closing the gap is more about statistics. It's about real lives. And strong families and brighter futures. It's about assuring that our children grow up to be healthy and proud and connected to their culture.
Cet épisode d'Australia Explained a été produit en anglais par Loana Grant, executive producer de NITV Radio, et traduit en français par Bertrand Tungandami.
Et Et enfin, l'émission, un rappel des titres de ce mardi 6 mai. Le Premier ministre a déclaré qu'il prévoyait d'attendre quelques jours pour remanier son ministère en attendant les résultats de certains sièges où le décompte des votes est encore trop serré. Le Parti libéral cherche un remplaçant pour son chef sortant, Pete Dutton, qui a perdu la circonscription de Dixon, le porte-parole du parti pour le Trésor, Angus Taylor, la chef adjointe, Susan Lee, et le porte-parole de l'immigration, Dan Tehan, sont considérés comme les principaux candidats. Et puis le chef des Verts, Adam Bent, affirme que son parti ne regrette pas sa décision de faire campagne sur le climat ni sur Gaza. Le dépouillement des votes est toujours en cours dans sa circonscription de Melbourne. Et voilà, on est arrivé presque à la fin de cette émission et vous écoutez en ce moment Grand Corps Malade et Kimber Rose, Nos plus belles années. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Bel après-midi, à bientôt.
Il est temps d'entamer. Où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir. Oh, où sont passées?
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.